Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h que vous êtes sur RMC, vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai plaisir d'être avec vous en compagnie de Rémi Barré, de Thierry Moreau, de Pierre-Édouard Magnan et de Fred Hermel. On vous attend très nombreux au 32-16 pour parler de ces trottinettes électriques interdites aux moins de 18 ans à Lyon. Faut-il faire la même chose partout en France? On en débat dans un instant. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi qui nous donnera des applications pour faire des économies d'énergie. Vous allez voir, ça marche très très bien. À 14h, un quart de la population mondiale majeure n'a pas d'enfants. Mais peut-on être heureux sans progéniture? On vous attend au 32-16, on attend vos témoignages. Bah, dites-nous si par exemple, vous n'avez jamais eu envie d'enfant ou si au contraire, vous avez une famille nombreuse et que vous en êtes extrêmement heureux. 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Alexandra. Elle a été victime de fraude bancaire et sa banque refuse de la rembourser. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui et un très beau cadeau à gagner, Rémi.
Oui, à quelques heures du match France-Autriche et à deux mois tout juste du début de la Coupe du Monde de foot, toute la journée RMC et Intersport vous offrent le tout nouveau maillot de l'équipe de France pour supporter les Bleus. Vous envoyez Bleu au singulier par SMS au 7-32-16. Bleu au singulier par SMS au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à l'interdiction du jour. C'est celle des trottinettes électriques pour les moins de 18 ans à Lyon. Un mois après l'accident qui a coûté la vie à deux adolescents, la capitale des Gaules a décidé d'agir et de frapper fort. Concrètement, Rémi, comment ça va se passer?
En tout cas, l'information a été confirmée hier par l'adjoint au maire en charge des mobilités. Les trottinettes électriques en libre service seront donc désormais interdites aux moins de 18 ans. Très concrètement, après plusieurs mois de discussions avec les deux opérateurs qui couvrent la ville, les applications de location procéderont désormais à un rapide scan de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire du client avant de permettre la location de la trottinette, comme pour un crédit en ligne ou certains achats sur Internet. Une société spécialisée vérifiera en quelques secondes ou minutes l'identité de l'utilisateur. Une demande de la ville qui intervient, tu l'as dit, dans un contexte de multiplication des accidents graves. Le drame le plus marquant restant la mort de deux adolescents de 15 et 17 ans en août dernier à Lyon, percutés par une ambulance privée. Mais le week-end dernier encore, une ado de 16 ans a été gravement blessée à Vénissieux, renversée par une voiture après avoir grillé un feu rouge. Et les chiffres de la sécurité routière d'ailleurs sont frappants dans le domaine. Le nombre de décès liés aux trottinettes électriques et engins du même type ne cesse d'augmenter en France. 24 morts en 2021 contre 7 en 2020. Vous allez me dire 2020, il y avait la pandémie, d'accord, oui. Mais c'était seulement 10. Enfin seulement, entre guillemets, mais il n'y en avait eu que 10 en 2019. Le double donc en 2021. Aujourd'hui, il faut le rappeler, il faut être âgé seulement de 12 ans. À partir de 12 ans, on peut piloter une trottinette électrique.
Alors, faut-il interdire la trottinette aux moins de 18 ans partout en France? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Ben pour une fois, on va dire du bien de la mairie de Lyon. Hein. Franchement, ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ça, c'est une vraie réponse aux drames qui se sont produits. C'est un premier pas. C'est un premier pas parce que c'est vrai que quand on conduit un engin de mort à être majeur, ça me paraît nécessaire. C'est un premier pas vers ce qui devra arriver et qui arrivera un jour, j'en suis persuadé. C'est l'interdiction totale des trottinettes qui sont dangereuses. Voilà, ce sont des engins dangereux. Voilà, dangereux pour ceux qui les pilotent et dangereux pour les gens comme moi, qui sommes des piétons.
Ça permet quand même de se déplacer de manière plus rapide.
Bah, oui, mais c'est en plus c'est une ineptie écologique.
On n'arrête pas de dire qu'il y a moins de transports en commun aujourd'hui dans les grandes villes. Il y a une pénurie de conducteurs.
Oui, mais moi je pense qu'il faudrait passer un permis.
Il y a des embouteillages. Voilà. Vous voulez faire comment?
Il faudrait un permis. Il faudrait que les gens s'arrêtent au rouge. Cette jeune fille là qui est à Vénissieux, gravement blessée, elle a pas respecté le rouge. Mais ça c'est tout le temps. Il suffit de passer 5 minutes dans Paris pour voir le comportement des gens sur les trottinettes. Donc ce sont des engins dangereux. Moi je souhaite vraiment la disparition de ces engins qui sont en plus, et je termine la phrase, une ineptie écologique, puisque vous savez, il faut les recharger ces trottinettes. Donc toute la nuit, vous avez des camions, en général des gros vieux camions de diesel qui parcourent les villes pour ramasser les trottinettes, pour les recharger, ils reviennent et ces camions polluent énormément.
Oui, donc voilà, c'est les voitures électriques, il y a la fabrication des batteries,
c'est une fausse avancée, voilà, c'est tout simplement l'argent qu'on dépense là-dedans, on ferait mieux de mettre dans
Dans,
transports en commun.
Ah oui, d'accord.
Bah oui.
Thierry Moreau.
Moi, je méfie des ayatollahs dans un sens comme dans l'autre. Oui. Ceux qui sont des fervents.
Vous êtes servi avec
Bernard. Je suis un ayatollah de la vie. Je suis un ayatollah de la vie.
Je peux pas dire une phrase sans être coupé par
Fred. Je veux protéger simplement les gens comme moi.
Je peux pas terminer une phrase sans être coupé par Fred. Les ayatollahs de la mobilité douce, parce que ça n'est pas une mobilité douce, et les ayatollahs qui veulent tout interdire. Je pense que ce que fait la mairie de Lyon, c'est un cotter sur une jambe de bois. Je m'explique. Il faut absolument réglementer ce mode de transport comme le scooter de moins de 50 cm3, c'est-à-dire imposer des immatriculations, imposer des casques et imposer un permis. Un permis ou au moins une sensibilisation au code de la route, une formation. Parce que les interdire aux mineurs, ils vont se débrouiller, ils vont passer outre, ils vont prendre la carte d'identité du copain, ils vont s'en sortir. Donc je pense que c'est pas une bonne mesure. En revanche, et là où je te rejoins, il faut pas l'interdire, parce que, encore une fois, j'en ai ras-le-bol des gens qui interdisent tout. Il faut simplement juste réglementer cette nouvelle forme de mobilité qui est apparue effectivement de manière totalement anarchique par protection. Donc, est-ce qu'éventuellement il faut un casque obligatoire? Immatriculation obligatoire, parce que comme ça, quand il y en a un qui fait une infraction, on sait à qui s'adresser. Et une sensibilisation au code de la route, parce qu'effectivement, un gamin, quand il a 17 ans, on va pas lui interdire de faire la trottinette, mais on peut le sensibiliser au code de la route de façon à ce qu'il respecte les feux rouges, par exemple, pour pas avoir d'accident.
Pierre-Edouard Magnan, vous déplacez en trottinette, vous?
Non, parce que vu mon adresse légendaire et mon sens de l'équilibre, je crois que j'aurais trop peur de déjà me faire un accident à moi tout seul, ce qui n'engagerait que moi. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thierry sur le principe que de toute façon, si on interdit, ça ne marchera pas. En plus, c'est incontrôlable. Les flics de Lyon n'ont pas commencé à foutre des amendes à tous les gamins qui n'ont pas 17 ans ou qui n'ont pas 18 ans quand on dit 17 ou 16 ou 15. Après, évidemment, en fait, c'est
un véhicule. S'ils n'ont pas le droit, on met une amende. Enfin.
Oui, mais sauf que.
Si vous fraudez dans le bus, on met une amende.
Oui, mais vous savez, c'est le ratio entre le risque et la réalisation du risque. Le risque va être tellement rare.
Enfin, la réalisation du risque va être tellement rare.
Regardez, par exemple, vous êtes dans le métro et il y a un gamin qui fraude. Il vous dit, j'ai pas ma carte d'identité. Bon, ça. Mais là, il sera obligé d'avoir sa carte d'identité puisque pour prendre une trottinette électrique.
Voilà.
Il faut avoir sa carte d'identité, donc il pourra même se frauder.
Mais il y en a plein qui ne l'auront pas sur eux, qui vont se coller.
Ils sont obligés de l'avoir sur eux, sinon ils ne pourront pas prendre leur trottinette.
L'immatriculation, le casque, le code obligatoire, non, c'est un engin motorisé sur la voie publique. Mmh. Et derrière, peut-être de réapprendre, mais ça commence aussi avec l'utilisateur du vélo dans les villes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de la route au trottoir, Si on est sur un véhicule, on est sur la voie publique ou on roule. Ou alors, le pléonasme que je préfère, on marche à pied. Je suis un grand marcheur, notamment dans les villes, mais aussi à la campagne. Mais
comme moi.
La campagne, c'est plus une marche de randonnée, et dans les villes, on peut vraiment se déplacer. Paris, on peut faire beaucoup de choses à pied dans Paris, même si c'est la ville la mieux équipée en transport en commun, probablement, du pays. Mais voilà, quand on est motorisé, il faut des règles qui s'appliquent. Effectivement, la plaque d'immatriculation, parce que comme ça, si on commet une infraction, on n'a pas l'impression. La liberté doit toujours être encadrée, puisqu'elle est collective. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Or, aujourd'hui, c'est un petit peu ça s'est développé. C'est le problème aussi de l'assurance, je le rappelle, parce que il y a un vrai sujet assurantiel sur ces véhicules-là, quand il y a un accident qui est responsable, parce que cette jeune fille de 16 ans, à la fois, évidemment, elle a enfreint le code de la route, elle a grillé un feu rouge. Au demeurant, si c'est quoi le principe du piéton, c'est-à-dire le moins fort, c'est toujours lui qui est présumé avoir raison contre le plus fort, celui qui est dans la voiture et qui prend le moins de risques. Et puis en même temps, c'est pas parce qu'on est. Enfin, mourir dans son tort. D'accord, mais enfin, c'est surtout qu'on est mort. J'ai toujours mourir prioritaire aussi, ça n'a pas grand intérêt.
Oui, donc, et puis l'impact aussi sur le conducteur, parce que quand tu tues quelqu'un, même si t'es pas responsable, c'est pas facile d'aller vivre.
Oh, mais on est bien d'accord.
Pour le chauffeur qui lui respectait le code de la route, qui passe au vert,
bien sûr.
Et il y a une gamine qui arrive avec sa.
Et cela dit, ça reste un
rouge. Donc,
vous savez, avec l'éternelle responsabilité du. On doit toujours être maître de son véhicule. Je ne me lancerai pas dans la liste juridique du sujet pour savoir qui c'est qui pourrait être jugé responsable. On espère surtout que cette jeune fille va effectivement se remettre de ses blessures et s'en sortir.
Dans une ville comme Paris, etc., tu vois. Le nombre de trottinettes qui passent au rouge, mais c'est 90%. Et les vélos, c'est
90%. Mais c'est pas que des jeunes, c'est ça
non,
le problème.
Non, c'est pas que des jeunes. Non, c'est pas que des jeunes.
Donc ça ne résout pas le problème.
Bah non, voilà, ce que vous non. Dire, le problème pour le réseau, c'est d'interdire, c'est tout.
Bah oui,
c'est
mais là, on n'est pas d'accord. Non,
je vous ai donné une solution très facile à appliquer.
Bah, si interdire les déplacements, il n'y aura plus d'accidents.
Mais non, attends, on a vécu.
Ils restent tous chez nous, en télétravail, et puis voilà.
On a vécu quelques millennaires sans trottinette.
Mais, on peut gérer l'apparition. On peut gérer l'apparition d'un nouveau mode de transport. Voilà.
On a aussi vécu sans WC chez soi, mais je suis pas sûr qu'on a envie de remettre les tinettes au fond du jardin.
Ça marche pas, ce mode de transport.
Je voudrais qu'on prenne Hervé, qui doit être beaucoup plus sensé que vous, au 3216, qui nous appelle de Pluto, et qui est chauffeur pour personnes en mobilité réduite. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, Hervé. Est-ce que vous avez une trottinette électrique?
Absolument.
Mais vous avez plus de 18 ans.
Bah oui, j'en ai 52.
Ah oui, mais bien sûr.
Comme
mais
moi.
Mais en fait, je n'osais pas dire, je sentais que la voix était un tout petit peu plus âgée que 18 ans, mais bon.
moi, j'appelle, effectivement, je trouve que c'est une bonne chose d'interdire les trottinettes aux mineurs, mais c'est quand même pas la majorité des gens que je vois commettre des infractions, ce sont des adultes. Et pour tout vous dire, il y a quand même deux, trois choses qui me chiffonnent. c'est on a limité la vitesse aux trottinettes à 25 km/h. En revanche, on ne limite pas la vitesse aux vélos qui grillent autant les feux rouges que les trottinettes. Et on ne limite pas non plus la vitesse avec les monopodes. Vous savez, c'est une seule roue.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas.
Je vais vous dire une chose. Il y a une très grande côte à Puteaux qui s'appelle la rue de la République, qui est assez longue. Hein, elle doit faire 600 à 800 mètres.
Tout à fait.
J'ai vu sur un monopode un gars, un adulte, hein, avec un nouveau-né dans les bras.
Il n'y a des tarés, ça, on n'y peut rien.
J'en vois tous les jours. Après, j'ai vu un autre mec toujours dans cette même côte. Il avait un gros sac de course sur chaque côte, sur chaque poignet. Ok, donc je me dis bon, je vais le doubler. Ok, il galère parce que je voyais qu'il avait un peu de mal à maîtriser sa trottinette. Et une fois que je le double, qu'est-ce que je vois? Il a un môme de 3 ans entre les jambes. Ok, ça je le vois tous les jours. Des adultes qui ont un gosse de 2 à 3 ans entre les jambes. Et il n'y a pas de casque, il n'y a rien, et ça grille les feux.
Non mais ça, vous avez raison. Mais ce ne sont pas des moins de 18 ans, c'est ça le truc?
Non, mais oui, mais justement, mais je pense qu'il faut qu'on mette une police de mobilité douce. Franchement, parce que... Écoutez, moi j'arrête au feu, je fais partie des qui doivent s'arrêter au feu. J'ai même un truc dans le dos pour dire si je tourne à gauche, à droite, ou si je vais tout droit. D'accord? Mais il faut une plaque d'immatriculation, je suis d'accord. Il faut une police de mobilité douce parce que les gens, ils font n'importe quoi. Il y a une semaine, il y en a un, il s'est planté dans ma portière. Un adulte, il est sur une trottinette électrique sur le trottoir d'en face, à ma gauche, ok? Il n'y a personne sur la route. C'est-à-dire qu'il pourrait être sur la route, là où je suis, parce que je suis le seul véhicule. Je fais 100 mètres, je le dépasse sans problème, hein, puisque je mets mon clignotant parce que je dois tourner à gauche pour rentrer dans un parking. Je tourne à gauche, le mec, il a accéléré, il s'est encastré dans ma portière.
Mais c'est interdit. Et là, pour le coup, il y a une amende, Nicolas. Mais Hervé, pardon. Mais merci en tout cas, Hervé, de nous avoir appelé. Voilà, Hervé qui relate plein d'incidents, mais on a tous été témoins de ce genre d'incident.
Finalement, les gens sont d'accord avec moi.
Mais non.
Non, justement.
Justement, tu es d'une mauvaise foi absolue, puisque l'auditeur qu'on vient d'avoir explique qu'il faut réglementer par des immatriculations, par une police, pas interdire.
Je voudrais qu'on entende Nicolas qui nous appelle de Troyes dans l'Aube. Nicolas, eh bien, qui justement a eu un accident de trottinette il n'y a pas longtemps. Bonjour Nicolas.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Et vous arrivez quoi Nicolas?
Eh bien, c'est une chute il y a 2 semaines et demie. Mmh. Donc une chute qui a entraîné une fracture ouverte du coude. Alors opération évidemment, 6 semaines d'arrêt de travail pour le moment. Il y en aura quelques autres en plus. Et je tiens à préciser que je suis quelqu'un de relativement prudent.
Mais c'est vous qui étiez en trottinette?
Oui, c'est moi qui étais en trottinette. Et donc, je suis quelqu'un de relativement prudent et je suis le premier à dire que la trottinette est dangereux, voire même très dangereux. Et donc, quand je vois le comportement des gamins, enfin des jeunes, des mineurs, avec les trottinettes sur les trottoirs, qui grillent les feux rouges, qui ne font pas attention aux piétons, qui font vraiment n'importe quoi. Et Troyes est une petite ville, c'est pas à Paris. Donc à Paris, j'imagine que ça doit être du délire.
C'est horrible.
Oui, voilà. Et je l'entends souvent dire à l'antenne des RMC, hein, que ça soit chez vous, dans les grandes gueules, etc. Et donc à Lyon, ils décident de faire ça. Moi, je pense que ça devrait être dans toute la France. Ouais, les gamins ne connaissent pas le code de la route.
Normalement, ils l'apprennent à l'école. Alors, pas tout le code de la route. Et ceci étant dit, Nicolas, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, si je repassais le code aujourd'hui, je ne l'aurais pas. Et je pense qu'on repasserait tous les deux le code aujourd'hui, sans réviser ni rien, on ne l'aurait pas.
C'est possible.
Oui. Et donc, en fait, les mômes, ils ne vont pas apprendre le code Rousseau durant leur scolarité. Mais en revanche, ils sont obligés de faire une formation, je ne sais plus comment ça s'appelle. BSR, je pense que c'est pas. Sur l'apprentissage de la conduite. Donc, au moins d'apprendre les panneaux principaux et de savoir les principales règles, la priorité à droite, etc. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Puis, bon rétablissement, Nicolas, avec votre coude. Voilà. Merci, Nicolas. Oui, Rémi Barry.
La formation de la sécurité routière pour les adolescents dont tu parles, elle était auparavant faite essentiellement pour leur apprendre à être en sécurité en tant que piéton et en tant que cycliste. Et éventuellement, à l'époque, c'était des mobilettes mais surtout, aujourd'hui, on a affaire à des engins qui sont extrêmement puissants pour certains d'entre eux. On connaît les ados qui peuvent être débridés. Et les chiffres sont quand même hyper impressionnants parce que là, je viens de voir ça. Depuis 2018, entre 2018 et 2021, les ventes de trottinettes électriques ont augmenté de combien, selon vous?
De 100%.
De 748%. On a aujourd'hui 2,5 millions de Français qui circulent en trottinette électrique.
Notre invité sur ce débat, d'habitude, on l'a sur la voiture, mais aujourd'hui, on va le voir sur les trottinettes, si on peut parler de tout ce qui est motorisé. C'est Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, je vais me transformer en défenseur des trottinettes, j'ai l'impression.
Oh bah ça m'étonnerait. Parce que vous allez défendre les trottinettes, Pierre, bah ça m'étonnerait.
Non, parce que effectivement,
je raccroche Estelle, sinon.
Il y a un vrai problème de sécurité avec les trottinettes, il est évident. Mais en fait, le problème, c'est que la décision du maire de Lyon, c'est le symbole un petit peu de son incapacité à avoir régulé auparavant. C'est-à-dire que, tant sur les vélos que sur les trottinettes, il faut être très honnête, il n'y a pas de verbalisation. Aujourd'hui, vous avez un deux roues, quel qu'il soit, il n'y a aucune verbalisation si vous traversez au feu.
Mais pourquoi notamment. Parce qu'il n'y a pas de policiers ou parce qu'on ne veut pas les verbaliser?
Alors j'ai adoré l'idée là d'une police des mobilités.
Moi aussi.
Parce que je trouve que c'était plutôt pas mal d'aller sanctionner ces comportements qui mettent en danger l'utilisateur lui-même et aussi l'automobiliste qui peut malheureusement percuter quelqu'un. Alors, évidemment, c'est lui qu'on va pointer du doigt, mais il faut se rendre compte que quand on a une trottinette qui débat et qui déboule à une intersection et qui n'a pas respecté le feu, c'est extrêmement dangereux. Le problème de la trottinette par rapport au vélo, c'est que le vélo, vous avez une capacité avec le guidon à pouvoir orienter le vélo sur des trajectoires qui sont quand même plus simples que la trottinette. La trottinette, vous êtes droit, raide, et la capacité de pouvoir tourner et de faire une manœuvre d'évitement, elle est quasiment nulle. La trottinette, c'est dangereux. Mais est-ce qu'il faut interdire uniquement aux gamins? Est-ce que la solution, c'est pas plutôt de mettre en place, je sais pas moi, l'équivalent de ce qu'on met sur les moins de 50 cm3, c'est-à-dire le permis AM, le BSR, anciennement le BSR, un brevet de sécurité routière qui permet d'avoir une petite formation à la conduite? Et puis, moi, j'ai envie de je pense beaucoup aux parents. On n'envoie pas son gamin de 14 ans sur une trottinette, comme ça, à l'aveugle, sans avoir vérifié d'abord que son comportement, il est OK. C'est dangereux, on est sur la route.
Oui, mais alors après, moi, je les ai utilisées, ces trottinettes électriques, et par exemple, quand vous avez le moindre trou...
14 ans,
non, mais c'est pas le problème. T'as le moindre trou sur la route, si tu le vois pas. C'est hyper dangereux, bien plus dangereux qu'un vélo. Et ça, le trou sur la route, il peut arriver à un 45 ans comme à 17 ans, en fait.
Aujourd'hui, vous êtes pour l'interdiction, vous aussi, puisque c'est un moyen dangereux.
Mais non, je suis pas pour l'interdiction, c'est pas ça. Légiférer, mais en vrai, tu peux avoir autant d'accidents à 40 ans. Des gens de 40 ans avec
c'est un engin de mort.
Non, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'espace public, il y a trois types de personnes qui circulent sur l'espace public. Ceux qui sont carrossés, qui sont en voiture. Ceux qui se déplacent vite, non carrossés, c'est-à-dire les trottinettes et les vélos. Et les piétons. Il faut absolument que chacun ait son couloir. Sinon, on n'en sortira
piétons, on en a plus.
Jamais.
Piétons, on en a plus.
Je sais.
On ne peut plus se balader tranquillement.
Je sais.
Ah, mais bien sûr que non.
Non, mais si,
il a raison. Tous les soirs, je fais une heure de marche. Oui. Je ne peux plus être à Bailly-Corneille, à Rêvasser, à rêver d'amour, à rêver d'Estelle Denis, à rêver d'Hélène, parce qu'il faut être attentif, parce que même sur le trottoir tu dois faire attention parce qu'il y a des vélos et des éoliennes,
d'où la séparation des trois.
Les éoliennes à Paris, j'en ai pas vu beaucoup.
Il y en a une dans
sa
route. Et les trottinettes.
On est avec Anthony qui nous appelle de Franconville. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Anthony, vous vouliez réagir sur les trottinettes électriques?
Oui, tout à fait, sur ce que j'ai entendu. En fait, moi, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Le souci, c'est pas la trottinette. Vous voulez l'interdire aux enfants, en fait, c'est aux adultes qu'il faut l'interdire. La trottinette, elle devrait être réservée au moins de 18 ans. Parce que tant qu'elle était utilisée par des enfants ou des jeunes ados, il se passait rien ou presque rien.
C'est vrai,
Avec les vélos, il y a 30 ans qui étaient utilisés par les ados pour aller au lycée. Il n'y avait pas de problème. Moi, je passe ma vie dans Paris en voiture la journée, mais c'est les adultes les problèmes en trottinette. En aucun cas, les enfants. Vous inquiétez pas, l'enfant, il ne va pas aller slalomer au milieu des voitures ou prendre le Trocadéro en sens inverse en faisant des selfies avec sa copine sur le dos. C'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, c'est des gens de 30, 40, 50 ans qui prennent scooter, trottinette, vélo, tout ce que vous voulez, qui ne savent pas s'en servir et qui font n'importe quoi. Les enfants, il n'y a jamais de souci avec les gosses, en fait. Laissez-les tranquilles. Ils n'ont même pas besoin de casque.
Anthony, c'est vrai qu'il y a plus d'adultes aujourd'hui que de monde.
Les trottinettes n'étaient pas électriques autrefois, donc évidemment, les gamins, ils utilisent la trottinette sans danger.
Pas tous en même temps.
Vous ne pouvez pas d'enfants sur des trottinettes qui vont à 100 sur le périph', c'est pas vrai. c'est des jeunes là qui de 25-30 ans parce que c'est très hype, c'est à la mode, donc je prends ma trottinette, je fais n'importe quoi avec. Un enfant, il va à l'école avec, il va voir ses copains, il revient, il utilise le trottoir, il est à 5 à l'heure, 10 à l'heure, basta. Et je pense que c'est 1% des accidents. La plupart des gens que vous voyez faire n'importe quoi en vélo, en trottinette, c'est quoi? C'est des adultes.
Alors après, Anthony,
c'est
avec
les enfants.
C'est à Lyon, Anthony, juste à Lyon, en fait, pourquoi cette mesure elle a été prise? Parce qu'il y a eu deux ados de moins de 18 ans qui ont été percutés par une ambulance. Ils étaient en trottinette et ils sont morts tous les deux. Donc, c'est pour ça que cette mesure elle a été prise. Donc, il y a évidemment des moins de 18 ans sur les trottinettes et évidemment, on va plus parler
Mais ils sont pas morts parce qu'ils avaient moins de 18 ans. Hein.
Non,
ils sont morts parce qu'ils étaient sur une trottinette. Ils auraient eu 25 ans. Ils seraient hélas probablement mort aussi. Alors je pense que là encore le problème de l'âge, puis c'est pas pour faire du lieu commun, mais je trouve qu'il y a toujours un petit côté, les jeunes seraient irresponsables, ils sont entendus, les moins jeunes le seraient moins. C'est absolument faux. Je trouve que des fois on fait du jeunisme, ça m'agace. Là il y a un petit côté un peu antinienne, comme quoi les gens à 18 ans, non. Ou alors on dit carrément que c'est comme une voiture, il faut le permis de conduire, etc. Encore qu'aujourd'hui, avec la conduite accompagnée, vous pouvez avoir des conducteurs en voiture qui ont moins de 18 ans, ils sont pas seuls.
Oui, mais ils sont formés.
Ils sont formés. Donc le sujet, c'est plutôt la formation, les règles de sécurité et effectivement la sanction.
Il y a des
règles
à respecter. Et la sanction.
Je suis d'accord, quand on franchit un feu rouge en vélo, on n'a pas le droit d'aller prendre un sens interdit à vélo. Or, dans la tête, dès que je suis pas carrossé, le code de la route s'applique pas à moi. Et le vrai problème, il est là, c'est à nouveau de l'éducation, de la formation et forcément un peu de sanction, parce qu'il faut pas croire que les gens, juste parce qu'on les forme, ils vont respecter les règles. C'est rarement spontané.
Et c'est vrai que tu vois beaucoup d'adultes, et moi ça me sidère, avec leurs enfants sur la trottinette. Et tu te dis, mais attends, leurs enfants, ils ont 3 ans, et tu mets un enfant sur une trottinette, ça me paraît, et sans casque, ça me paraît hallucinant. Mais juste, Pierre Chasseret, justement, est-ce qu'il faut pas mettre l'accent aussi sur la répression? Alors on disait une police des mobilités douces, mais en fait, aujourd'hui, il faudrait peut-être changer la loi, faire que le casque soit obligatoire, et puis sanctionner, quoi, histoire de. Si les usagers de trottinette savaient qu'ils seraient sanctionnés au moindre accroc, peut-être qu'on aurait moins d'incivilité.
Alors, vous savez, Estelle, on a une auditrice de marque qui nous écoute en ce moment, certainement. C'est Florence Guillaume, c'est la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière qui vient d'être nommée lundi.
Tout à fait.
Elle sait très bien, Florence Guillaume, pour venir de la gendarmerie et donc du terrain, qu'il va falloir forcément, je pense qu'elle va agir forcément sur cet axe des trottinettes et des vélos. Parce qu'il faut être très honnête, à force d'avoir couvert tous ces moyens de déplacement sous l'angle, vous faites du bien à la planète, donc vous faites ce que vous voulez. Absolument. Au final, on ramasse les corps sur la route. Donc il va falloir réglementer. Moi non plus, j'ai pas envie de faire ni de l'anti-jeune, ni de l'anti-vieux. Le problème du manque de savoir-être sur une trottinette ou sur un vélo est un problème global qui touche toutes les catégories d'âge. Il n'est pas question d'en cibler une plutôt qu'une autre. La réalité, c'est qu'il faut mettre des forces de l'ordre au niveau des feux, au niveau des stops, et traquer des comportements dangereux, qu'ils soient à vélo, à trottinette ou même en voiture.
Après, le maire de Lyon, ça va peut-être aussi dans le bon sens, parce qu'il commence à faire ça, il interdit aux mineurs, et peut-être qu'après, justement, va se rendre compte que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est un aveu d'échec
vers un durcissement, en fait,
c'est un aveu d'échec.
Oui, aussi. Vous avez pas mal de messages, Rémi.
Oui, notamment ce message de Jérémy qui nous dit « Vous êtes dans le faux ». C'est ce qu'il nous dit. Ils ne sont pas dans un esprit d'usager. Il parle de ceux qui utilisent cette trottinette électrique. Ils ne sont pas dans un esprit d'usager de la route, mais plutôt de jeu urbain et de liberté de mouvement. Donc, les règles pour eux n'existent pas. Il parle des adolescents. Il parle des très jeunes qui utilisent ces trottinettes électriques.
Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il interdire la trottinette électrique aux mineurs, Rémi?
C'est un oui massif, oui à 84% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Et merci à Pierre Chasseret, merci à tous les auditeurs d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, c'est un gros zapping. On va vous poser plein de questions. Êtes-vous prêt à rallumer le chauffage? Les enfants d'aujourd'hui sont-ils des incultes? Et les Français sont-ils des porcs? Il y a eu un éboueur invité dans les GG, et je peux vous dire que c'était gratiné. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h30, vous êtes sur RMC, RMC Story. On est dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Pierre-Édouard Magnan et Fred Hermel. Et c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Êtes-vous prêt à rallumer le chauffage? Ou peut-être même que c'est déjà fait. Depuis quelques jours, les températures ont fortement baissé dans de nombreux départements. Et avec les prix élevés de l'énergie, eh bien certains n'hésitent pas à rallumer le chauffage. C'est le cas des habitants d'Armentières dans le Nord. Ils témoignaient ce matin sur RMC.
17 degrés. Vous voyez, il fait pas franchement chaud dans ma maison. Je suis un peu comme un oignon, je remets des plures, je remets un pull, deux pulls.
Effectivement, on se posait la question, surtout le soir en fait, en se couchant.
C'est une vraie question, mais on peut pas le rallumer tout de suite. C'est clairement trop tôt, clairement trop cher. Et...
On s'est posé la question, effectivement, mais on a mis le confort avant tout. Après, on a des choses qui sont mises en place dans la maison, un thermostat avec des heures de déclenchement, etc.
Fred Hermel, est-ce que vous allez réfléchir avant de rallumer le chauffage cette année ?
J'ai déjà rallumé.
Oh ! Mais ça m'étonne même pas.
Non ! Je l'ai rallumé deux fois une heure. Ah. Une fois un soir, il faisait trop froid dans mon appartement, j'avais froid. Et le lendemain matin, j'étais en train d'écrire, j'étais assis et j'avais froid.
Donc j'ai pull ?
Oui, mais j'avais froid. Mais même avec un pull, j'avais froid aux pieds, j'avais froid.
Bah, et puis, tu mets des chaussettes. Puis,
non, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Tu es chez moi, je suis à l'aise, je suis en short et en t-shirt.
Ah, voilà. Bravo.
Et voilà. Quelle honte.
Et après, ça devient nous donner des leçons. Sur la planète.
T'auras une éolienne sur ton toit pour la peine.
Non, mais
en tout cas, c'est pas un ayatollah de l'écologie, ça c'est sûr.
Non, mais le truc, c'est que je l'ai fait, j'ai un thermostat, j'ai remonté un peu le thermostat.
À combien, 23?
Non, ça devait être à 21, un truc comme ça.
Ah oui,
Mais pendant, comme ça, ça a chauffé pendant une heure. Et puis après, là, ça a réchauffé l'appartement, je l'ai baissé, et puis après, c'était très bien.
Pierre-Edouard Magnon, vous faites gaffe, vous ?
Oui, mais moi, j'ai toujours fait attention. Alors après, là, on parlait de la campagne. Moi, j'habite à campagne, j'ai une vieille chaudière fioul, qui n'a d'ailleurs pas de thermostat. Mais qui a 21 ans, donc elle est encore conforme. Et donc, j'allume quand on est sous les 18 dans la maison. On n'est pas encore redescendu sous les 18 degrés, même la nuit. C'est l'avantage, par contre, des vieilles maisons. Donc, je n'ai pas encore remis le chauffage. Mais moi, pour le coup, comme c'est une vieille chaudière, je mets à 18. Quand on arrive vers 19,5, 20, je l'éteins. Et tant que je ne repasse pas sous les 18, je ne la rallume pas. Et donc, j'arrive à consommer relativement peu de fuel, y compris parce que le fuel, on en parle toujours un peu moins parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Mais il y a un an, on était sous l'euro. Moi, j'ai fait remplir ma cuve en plein été. On était à 1,55€ du litre. Alors par rapport au prix du gaz et l'électricité, je suis pas sûr que ce soit finalement tellement plus cher, faudrait sur l'année. Mais effectivement, oui, on y pense quand même. Et effectivement, oui, on va faire un peu attention parce que on aimerait bien éviter de faire deux cuves dans la saison. Et pour plein de gens, ça va être un vrai problème.
Et c'est vrai que c'est la première fois que je me sens culpabilisée à l'idée de mettre mon chauffage. Et en fait, ça m'est jamais arrivé parce qu'avant, je ne faisais pas attention. Et là, je sais pas si c'est pareil pour vous, Thierry, mais j'ai presque scrupule à vieux sur le bouton, vous voyez. Ah
non, je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre le plus tard possible.
Ah oui. Alors,
j'ai la chance d'habiter une vieille maison, ce qui fait que l'été, il y fait frais.
Oui.
Et l'hiver, ça garde relativement les températures.
Grosse force d'inertie.
Mais en ce moment, il fait froid. Parce qu'il y a une inertie.
Mais d'accord.
Donc, je mets des pulls. Et c'est vrai qu'au moment
de et pour les pieds?
Il met des chaussettes.
Si une chaussette, ça suffit pas.
Bah, tu mets une grosse paire de chaussettes.
Il a allumé un feu de cheminée.
Je peux parler ? Dans la pièce où je vis, il y a une cheminée et donc je vais faire du feu.
Ah bah voilà.
Pour réchauffer la pièce. Mais dans la chambre, par exemple, une couette, un édredon. Enfin, on va trouver des trucs pour ne pas.
Et vois que tu vas brûler dans ta cheminée.
Il est. C'est celui de mon jardin. C'est celui de mon jardin.
Il est
autosuffisant. C'est un arbre qui est tombé que j'ai fait abattre parce qu'il était mort et voilà après la tempête. Voilà. Et donc
j'ai des preuves de ça.
J'ai trois serres. Ah mais je te ferai les photos si tu veux. Pas de souci.
Deuxième extrait dans ce zapping. Les GG, les Français sont-ils des porcs ? En tout cas, c'est l'avis du célèbre éboueur parisien Ludovic, star des réseaux sociaux, qui dénonce chaque jour l'incivilité des habitants. Il était l'invité des GG ce matin.
C'est les gens qui sont dégueulasses, exactement. Tout le monde dit Paris est sale. Non, Paris n'est pas sale. Oui, c'est les gens qui salissent Paris.
Vous le constatez, alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites pas la morale, vous avez choisi, c'est plutôt l'humour pour dire aux gens, mais arrêtez de jeter vos mégots, arrêtez de jeter vos papiers, ça a des conséquences, c'est ça?
Exactement, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, 5 baignoires, c'est impressionnant quand même. Donc arrêtons ça, il y a des cendriers de poche, ça existe depuis très longtemps. Pourquoi jeter par terre? Et en plus, devant nous, devant les éboueurs.
Quelles sont les pires saletés que vous puissiez voir ou vous ayez ramassées, Ludo ?
Les pires saletés, c'est la salle humaine. Hein. Quand une personne fait ses besoins dans la rue, ben vous arrivez derrière pour nettoyer.
Et il y en a beaucoup ?
Ah, il y en a, oui, tout à fait. Alors, j'ai même une vidéo où une personne fait ses besoins dans une poubelle publique. Et elle est ravie. Hein.
On parle du pipi ou du popo, là ?
Non, on parle des deux.
Les Français sont-ils des porcs, Thierry Moreau ?
Alors, j'ai écouté Ludovic ce matin dans les grandes gueules. Je trouve qu'il met de la poésie dans un métier qui est difficile, qui est mal payé, qu'on a vu, c'était les premières lignes, etc. Donc sur le personnage, j'ai pas de truc. Sauf qu'il faut pas que l'arbre Ludovic cache la forêt de l'inconstance et de l'insanité de la politique sanitaire à Paris, où les poubelles sont de moins en moins bien ramassées, où la ville est de plus en plus sale. Dire que ce n'est pas la ville qui est sale, mais ce sont les Parisiens qui sont sales. D'abord, il n'y a pas que des Parisiens à Paris, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je suis désolé, depuis un certain temps...
Si les Français jetaient leurs poubelles correctement, il y aurait moins de saleté. Enfin,
je suis désolé, depuis un certain temps, Paris est plus sale qu'il ne l'a jamais été. Oui. Et il y a des villes autour de Paris qui sont plus propres. Donc il y a bien quand même un problème de gestion, que ça soit du temps horaire, que ça soit des effectifs, parce que Ludo l'a très bien dit ce matin.
Parce que Paris est moins bien entretenu aussi, les espaces verts, vous avez des espèces de grappes d'herbe partout.
On est d'accord. On est bien d'accord. Donc Ludo, il a raison de sensibilité, il met de la poésie encore une fois dans un métier qui n'en est où c'est pas facile, donc c'est formidable. Mais il faut pas que cet arbre-là cache la forêt de la politique de ramassage des déchets à Paris qui est une aberration.
Pierre-Edouard Magnan, est-ce que vous avez l'impression que les Français sont de plus en plus sales en fait?
Non, pas nécessairement. Alors d'abord, j'aimerais qu'on arrête de dire du mal des porcs, des cochons en tant qu'arrière petit fils de charcutier. D'abord, en plus, le porc est un animal qui est propre, contrairement et qui se nettoie beaucoup. Et donc, je fais un peu d'humour, mais j'allais dire, je trouve qu'il faut défendre le cochon chez qui tout est bon. Je me permets de le rappeler. Et puis, deuxièmement, après, le problème, c'est que la saleté appelle la saleté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un défaut de politique publique, à partir du moment où il y a quand même quelques comportements incivils, mais qui ne sont pas corrigés par le service public, eh ben, vous avez un effet effectivement d'entraînement. Et puis après, il y a la question effectivement du ramassage des poubelles. Je ne parlerai pas du secteur de ville, mais j'aime rappeler qu'on est dans de nombreuses campagnes où nos poubelles sont ramassées une fois tous les 15 jours.
Hein?
Une fois tout. Moi, j'ai mes poubelles, passent une fois tout. Alors, j'ai une grande poubelle plastique que la commune met à ma disposition, évidemment.
Mais je ne mets pas tes ordures à côté de la poubelle, donc
non. On est bien d'accord, mais cela dit,
tu trouves que c'est pas assez.
C'est vite un peu compliqué. Alors, bon, on a que deux. Alors, on n'est pas tellement emmerdé par le tri, ça. Effectivement, de ce côté-là, le tri, il est assez modeste. Mais il y a un moment, et en plus, là, je vais faire mon contribuable un bas du bonnet, mais on paye de plus en plus de taxes d'enlèvement des ordures ménagères avec des ordures ménagères qui sont enlevées de moins en moins.
Tu veux faire du tri en mettant au compost ce qui va au compost.
Alors, on peut faire du compost. On peut faire du tri de verre et je le fais, j'emmène mes verres pas pour jeter mes verres.
Dans une grande ville, le compost, vous pouvez en faire. Hein.
Je parle de du cas de...
Pour ce qui est du verre, par exemple, c'est vrai qu'il faut avoir sa grande benne, il faut l'emmener soi-même au comptoir à verre parce que t'es à la campagne, il n'est pas au bout de la rue. Ce qui est logique, on ne va pas mettre une benne à verre devant toutes les maisons, non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus contraignant. Qu'au demeurant, la taxe sur les ordures ménagères ne cesse d'augmenter et il y a un moment, moi je veux bien payer le service public, je suis même plutôt un défenseur des impôts sur le principe. Par contre, je pose des questions sur l'utilisation. J'en fais de plus en plus et je paye de plus en plus cher. Oui. Il y a un moment un sujet.
Alors, des questions sur l'utilisation de l'argent public, comment vous dire que ça, c'est quand même un truc...
Moi, je suis jamais contre les impôts. Par contre, il m'arrive de râler sur ce qu'on fait de mes impôts.
Tous les jours, je m'en pose, oui, ce genre de questions. Fred Hermel, là, c'est votre marotte, hein, bien sûr, la saleté des Français. Et comme vous habitez Paris, bon, bah, écoutez, allez-y, vous avez une minute.
Oh, une minute, c'est beaucoup. Parce que ça va être rapide. Oui, les Français sont de plus en plus pauvres, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Non, donc, les excuses, la saleté appelle la saleté, oui, sûrement. Mais je vois des comportements dans la rue que quand je voyais pas quand j'étais petit.
Mais genre quoi?
Bah, les gens qui jettent les trucs comme ça.
Bon.
Mais bien, oui, les gens sont sales. Les gens sont plus sales. Les gens respectent moins les choses qu'avant. C'est une réalité.
C'était mieux avant.
Il y a 200 ans, vite.
Désolé d'avoir l'air d'un vieux. Tu fais ton péricolégas.
Désolé d'avoir l'air d'un vieux.
Il y a 200 ans, on jetait les pots de chambre dans la rue, hein. Donc, faut aussi là-dessus.
Et sous Louis XIV, on pissait dans les escaliers, hein.
Colossaux.
Excuse-moi, je n'étais pas né au temps de Louis XIV. Voilà, je suis en 1970. Donc, je suis un enfant, un ado des années 80. Et je trouve qu'à l'époque, il y avait un peu plus d'éducation.
On jetait ses mégots par terre, on faisait batterie.
Non.
On sortait les poubelles devant chez soi, c'est
oui,
pas
mais
vrai.
Alors, il y a une différence, excusez-moi, hein, c'est que, il y a 30 ans, il y avait 10 fois moins d'emballage, qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de fast-food, il n'y avait pas des choses qu'on,
en fait, on
passe notre temps à jeter. Il y a qu'à voir. Parfois, vous mettez.
Ce qui a changé, c'est la production de déchets qui a considérablement augmenté, y compris, la question des emballages. Évidemment, l'industrie agroalimentaire va quand même devoir leur imposer des normes en matière d'emballage. Je veux dire, on le fait quand on fait tous ces courses.
Tout est jetable.
Quand on arrive pour ranger dans son frigo, dans ses placards, on ne peut que tous constater l'orgie d'emballage inutile. Et alors là, d'un point de vue écologique, la fabrication, la conservation, le tri, enfin tout ce qu'on veut, il y a rien à sauver là-dedans.
Nouvelle question dans ce zapping, les GG ce matin. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils des incultes? Selon une étude américaine, près de 20% des enfants de 5 à 8 ans ne possèdent pas de livres chez eux. Un chiffre très élevé qui serait lié à la hausse du coût de la vie. Les parents considèrent tout simplement que les livres sont devenus trop chers.
On peut ne pas avoir de livres à la maison parce qu'on n'a pas d'argent. On va dans les bibliothèques, dans les médiathèques pour pouvoir user de votre libre arbitre, pour pouvoir justement être capable de décrypter une information en continu, surtout maintenant que vous êtes exposé à cette information continue sur les écrans et les réseaux sociaux. Il vous faut un bagage culturel. Et c'est ce bagage culturel qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne fournit plus et que les parents, parfois des milieux populaires, mais pas seulement, aussi des CSP++, ne sont plus capables de transmettre à leurs enfants. Je suis navrée, vous pourrez toujours vouloir faire de la philosophie en regardant un YouTuber. C'est pas pareil que quand vous allez lire un texte d'un philosophe, de pouvoir confronter les idées.
Est-ce que les enfants sont devenus un culte, Pierre-Édouard Magnan, ou est-ce que c'est évidemment la faute au coût de la vie, on va dire? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un livre, c'est quasiment 20 euros. Hein, donc,
Alors, moi, je ne suis pas d'accord pour les enfants sont devenus un culte. La culture a évolué, sans doute qu'aujourd'hui, la culture de nos enfants est moins humanistique, pour employer un vieux mot. Même moi, j'étais à l'école il y a 20, 30 ans, c'est plus les mêmes aujourd'hui, mais je vois ma fille, elle va à l'école, elle a 9 ans, elle n'est pas du tout inculte. La culture est différente, le mode d'accès à la culture est différent. Après, il est évident que l'accès familial est important. C'est vrai que il se trouve que hier, à notre vie, avec enfin, bon, on emmène notre fille au cinéma, on l'emmène au musée, on lui achète des livres. Moi, en plus, je suis un passionné de livres, y compris de l'objet. Alors, il y a un tropisme personnel. Cela dit, elle est plutôt dans une phase « j'aime pas lire et je veux pas lire », mais c'est pas grave, elle lit en fait plein de choses. L'internet, il y a à boire et à manger, mais c'est quand même un accès à des ouvertures culturelles que même nous on n'avait pas à leur âge. Donc moi, je n'aime pas dire que les jeunes sont plus incultes ou plus bêtes. Ils n'ont pas la même culture. Après, le sujet, c'est comment on leur permet. Effectivement, comment on ouvre les choses. La gratuité des musées est une bonne chose. Les réseaux de bibliothèques sont une bonne chose. Aujourd'hui, des camions dans les campagnes qui amènent des livres. Donc
les bibliobus.
Ouais. Donc, je ne pense pas que les gens. Et après tout, moi, je vois aussi plein de jeunes, des charabies de là, qui connaissent plein de choses que moi, j'ignore. Moi, je vois mes neveux, mes nièces, ou qui ont même 14, 15, 16, 18 ans. Ils m'apprennent plein de trucs que j'ignore. Est-ce que ce qu'ils savent est moins bien, moins intelligent que ce que moi, je sais? Je ne le crois pas. C'est pas la même chose. À nouveau, comment on fait se rencontrer une culture plus classique? Moi aussi, j'aime les philosophes et les vieux auteurs. Et puis, des cultures plus modernes, parce que les youtubeurs, il y a à boire et à manger, mais comme en littérature d'ailleurs.
Oui. Alors, je ne vais pas parler d'un vieux con, mais...
C'était mieux avant.
Non, la culture a évolué. La culture a évolué, l'accès à la culture a évolué. Par contre, elle est beaucoup moins écrite. Il suffit simplement de prendre les Martines. Vous connaissez les bouquins
de
Martine à la mer, bientôt Martine et des chroniqueuses chez Estelle Denis, enfin tu vois, les trucs comme ça. Vous prenez simplement le nombre de lignes sur une page aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est la moitié.
Oui, c'est vrai. C'est la moitié.
Ouais, c'est vrai. Et les mots sont de plus en plus simples. Donc, la culture a évolué. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la culture écrite a été divisée par deux.
Je dirais pas que la culture a évolué, je dirais qu'elle est aujourd'hui protéiforme et que cette nouvelle culture, qui est effectivement beaucoup plus numérique, etc., ne doit pas totalement remplacer la culture livresque. Moi, j'ai fait l'effort avec mon épouse de lire des histoires à mes enfants jusque tard. Même à un âge où on lisait plus de... Non, ils ont maintenant 27 et 30 ans. Mais du coup, ça leur a donné un goût de la lecture. Ils lisent beaucoup. Ouais. Et je trouve que ça, ce goût de la lecture, quand on peut le donner très tôt, et je trouve navrant des familles où, quelquefois, le seul ouvrage qu'il y a dans la maison, c'est un dictionnaire médical ou un... Enfin, voilà. Je pense qu'une maison sans livres, c'est une maison triste. Il y a beaucoup de livres chez moi. Il y en a dans toutes les pièces. Ça dégueule de partout. Mais cette... Oui, Estelle connaît ma maison. Donc elle a vu les livres. Il y a beaucoup de livres partout parce que je pense que la culture livresque ne doit pas être totalement remplacée. Donc je pense pas qu'elle ait évolué. Elle est protéiforme, mais il faut pas réduire trop la culture livresque.
Et après, il y a aussi le fait de dire un livre c'est cher. Alors oui, c'est
cher. Mais il y en a des pas chers.
Il y a des livres qui sont 0,50€, il y a des folios, il y a des choses. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même les maisons d'édition font des efforts, y compris des grands
classiques. Mais c'est ce que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter déjà un livre quand il sort. C'est quand il sort, il est beaucoup plus cher. Ensuite, les classiques, il y en a beaucoup qui sont gratuits, et notamment sur les Kindle, etc. Il y a pas de souci. Et puis encore une fois, il y a des boîtes à livres,
il y a des bouquins.
Il y a un truc qui s'appelle les bibliothèques. Bah oui, ça existe encore. Je sais pas jusqu'à quand, mais il y a toujours possibilité de lire. Et quand on dit bah oui, c'est parce que le livre est trop cher que je lis pas. J'avoue que je me pose des questions.
Comme c'est tombé dans le droit public, c'est parfois 1€.
C'est ça.
Et c'est gratuit sur Internet. Et c'est 1€ ou 1,50€ en format livre. Et
pas le prix qui.
Non, moi je ne crois pas non plus. Dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi nous donnera des applis pour faire des économies d'énergie. Et puis à 14h, un quart de la population mondiale majeure n'a pas d'enfants. Est-ce qu'on peut être heureux sans progéniture? A tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on va vous faire plein d'économies dans une seconde grâce à Stéphane Pedrazzi. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et Stéphane, aujourd'hui, effectivement, vous allez nous faire des économies d'énergie.
Parce qu'il existe plein d'applications qui vous permettent de optimiser votre consommation d'énergie. En gros, réduire le montant de la facture, puisque les prix du gaz et de l'électricité vont augmenter de 15% l'année prochaine. C'est le nouveau bouclier tarifaire. Eh bien, ces applications vous aident à calculer votre consommation d'énergie. Alors, pour ceux qui ont loupé un épisode, sachez que ça va représenter cette hausse 20€ par mois
en plus pour ceux qui se chauffent à l'électricité et 25 euros par mois pour ceux qui ont un chauffage au gaz. Et donc ces applications, elles s'appellent HelloWatt, EDF et moi, Enedis à mes côtés, EcoDemix, il y en a beaucoup. Sur HelloWatt par exemple, vous rentrez les caractéristiques de votre logement, surface, étage, type de chauffage, etc. Et vous obtenez des infos sur votre consommation. Alors par exemple, j'ai fait ça chez moi, l'électroménager pèse 36% de ma facture, l'éclairage 22%, c'est deux fois au-dessus de la moyenne.
C'est beaucoup,
Les équipements audiovisuels, 18% exactement. Alors honnêtement, j'étais un peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fin, mais il paraît que le système apprend progressivement et s'améliore au fil des semaines. Donc je vous dirai dans quelques semaines, mais en tout cas pour l'instant, j'ai appris que des généralités sur ma consommation.
Mais alors, est-ce que vous avez quand même trouvé des conseils pour réduire le montant des factures? Parce que c'est ça qu'on veut, Stéphane.
Alors j'ai trouvé pas mal de choses déjà pour expliquer les gros postes de consommation. Par exemple, le chauffage, c'est la première consommation énergétique du logement. Oui, honnêtement, on s'en doutait un peu. 65% des dépenses d'énergie en moyenne sont liées au chauffage.
C'est énorme.
Le conseil, c'est qu'un degré de moins, ça fait baisser la facture de 7%. D'accord. Donc si vous baissez la température du logement de 2%, vous allez pratiquement effacer la hausse des prix de l'énergie. De 2 degrés, voilà. Vous allez pratiquement effacer la hausse des prix de l'énergie qui est prévue l'année prochaine. Autre info, elle concerne l'éclairage. Donc directement, ça me concerne. Connaissez, c'est pas Versailles ici, on nous dit il faut ça, éteindre la lumière en sortant. Oui, mais c'est très bien, mais aujourd'hui l'éclairage c'est loin, très loin d'être la première consommation d'énergie grâce aux ampoules LED mais qui consomment beaucoup moins. Et du coup, comme on remplace progressivement les ampoules classiques par des LED, l'éclairage se fait rattraper par un autre poste de consommation, on en parle beaucoup, ce sont les appareils électroniques en veille. L'éclairage c'est un peu moins de 13%, les appareils en veille, ils peuvent représenter jusqu'à 10% de la consommation d'énergie, juste 3% de moins que l'éclairage. Donc il faut faire attention à ces appareils.
Non, mais un appareil en veille, c'est un
par c'est deux exemple, choses, ça peut être
une
par
bouilloire
exemple,
électrique par exemple.
Mais non, si tu la laisses pas brancher la bouilloire.
Hein? Bah, je laisse pas brancher, enfin, je veux dire.
Si, brancher,
pas...
ouais, laisse la bouilloire branchée.
Oui, bah, non, mais tu débranches la télé, par exemple.
Alors, si t'as des idées comme ça, tu peux aussi laisser le fer à repasser allumé et à plat. Ça marche
non, mais,
bien.
Mais, excuse-moi, mais tu. Non, mais, et ta machine à café, par exemple, électrique, qu'est-ce que tu fais?
Je la laisse brancher, mais pas
ah,
en
bah
route.
Alors.
Mais pas en
ah,
route.
Mais moi non plus, pas en
la
route.
La télé en veille, il paraît qu'une télé, si elle est utilisée 4 heures par jour, les 20 heures restantes consomment autant en veille que les 4 heures en marche. Moi, j'arrive à
éteindre ta télé, ça c'est pas très grave.
Si tu dis une application, c'est pas vrai. Chez moi, c'est pas vrai.
Et donc, si t'éteins ta télé, c'est à zéro.
Brancher. Oui, il faut couper la box. Il faut débrancher la prise, il faut mettre une prise
à l'intérieur. Si ta bouilloire, ta machine à café ou ta télé, elle est éteinte. Elle n'est pas en veille, elle est éteinte.
Elle consomme. Il y a toujours une consommation résiduelle.
Pour que justement,
watts,
quand tu appuies sur le bouton, elle se remette en marche rapidement. Oui. Il y a un système de veille qui fait que tu as une consommation
même sur une
que tu ne vois pas, qui est invisible.
À potasser le dossier quand même.
Absolument.
Mais sur un four.
Alors sur un four, il y a toujours quelques
débrancher mon four.
Ah non, surtout qu'en général, il est branché en fil directement.
Mais je vais pas débrancher mon congélo non plus.
Mais c'est pas con. Quoi qu'un congélo peut tenir une nuit sans être branché.
Comment?
Bah oui, le congélateur peut tenir une nuit. Alors, c'est une plaisanterie, mais le congélateur peut tenir une nuit sans être branché. Ça ne décongèlera pas.
Il faut beaucoup d'énergie pour le remettre à un moment.
On est d'accord, c'est un mauvais débat.
Oui, c'est un très mauvais débat.
J'ai trouvé par contre des choses beaucoup plus surprenantes, beaucoup plus intéressantes. Par exemple, ne pas obstruer les grilles de ventilation de votre logement.
Bah oui.
On l'a tous fait quand il fait très froid. On a tous tendance à obstruer. Alors,
c'est
extrêmement dangereux. Que l'air froid ne rentre pas dans le logement. Simplement, si vous obstruez les grilles, le logement est humide et il est plus difficile à chauffer. Et au final, ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est contre-productif. Autre astuce dans la cuisine, quand vous faites bouillir de l'eau, est-ce que vous mettez un couvercle sur la casserole?
Oui, j'ai appris.
Bah oui. Voilà. Ça divise par 4 la consommation d'énergie. Et le mieux, nous dit Enedis, l'application Enedis, c'est d'utiliser une bouilloire.
Voilà,
comme
c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est pour ça que j'ai acheté une bouilloire d'ailleurs. Tiens.
J'en ai une.
Oui. Voilà. Et juste sèche-linge, tout ça, qu'est-ce qu'il y a
de plus consommateur? Alors justement, tu donnes la réponse. Quel est l'appareil qui consomme le plus d'énergie?
Bah, le sèche-linge, mais c'est
alors
pas
quand
ce que
il fonctionne.
Dire.
Mais en réalité, le plus gros consommateur, parce qu'il est branché tout le temps, c'est le frigo. C'est considérable. Oui. Un frigo, c'est 200 kWh en moyenne par an, ce qui fait 30 euros, et c'est jusqu'à 4 fois plus pour un frigo américain. Un frigo américain peut vous coûter en consommation électrique plus de 100 euros par an, Estelle.
Mais j'en ai plus.
Et dans ces conditions, eh bien, on dégivre régulièrement. Parce que j'ai appris ça également sur ces applications. 3 mm de givre dans le frigo, c'est 30% de consommation en plus.
D'autres conseils, Stéphane?
La télé, on en a parlé. Attention aux grands écrans. Lorsque vous multipliez la diagonale de l'écran par 2, puisque c'est comme ça que ça se mesure, ça multiplie la consommation électrique par 4. Sans compter la box qui va avec. Une box, c'est en moyenne 12 euros de consommation électrique par an.
Je vais pas débrancher ma
box. Bah, certaines personnes le font. Alors, on nous explique que si tu la débranches la nuit et quand tu n'es pas là, tu économises 8 euros. Oui, mais 8 euros.
Bon, on peut gagner combien avec tous vos trucs, là?
Oh, je sais pas, j'ai pas fait le calcul.
Oh, mais bah, merci.
L'objectif, je t'ai dit, c'est d'effacer les 15% de hausse qui seront programmés pour le début de l'année prochaine. Et puis j'ajoute une application que moi j'adore, EcoDemix. Je sais que tu l'as sur ton portable et que tu adores. C'est pour regarder en direct la production et la consommation d'électricité en France, nucléaire, solaire, éolien. Et on voit aussi tout ce qu'on importe. Et honnêtement, ça nous amène à réfléchir et à modérer sa consommation. C'est mieux que les grands discours politiques. Tu regardes et tu t'aperçois, par exemple, que là, ce matin, on importait pratiquement l'équivalent de 6 centrales nucléaires.
Ah oui, d'accord. Et il y a EDF aussi, moi j'ai vu ça, qui fait sur l'appli, c'est très bien. Et ils te disent, je sais pas, si tu consommes un peu trop, etc. Pourquoi tu consommes un peu trop? Et non, moi j'ai trouvé ça bien. Bon, dans un instant. Vous avez des enfants ou pas, Stéphane?
Joker?
D'accord.
Non, je peux pas dire ça tout le temps.
Bah,
officiellement, je n'en ai pas.
Ah oui, d'accord. Bah, on n'est jamais sûr, ça c'est vrai. C'est vrai. Non, mais nous, les femmes, on sait, et vous, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr. Mais en tout cas, sachez, Stéphane, que vous faites partie du quart de la population mondiale qui n'a pas d'enfants. Mais peut-on être heureux sans progéniture? C'est la question qu'on vous posera dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.